Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La nouvelle est tombée hier. En 2018, les émissions de CO2 ont dans le monde atteint un niveau historique de 33,1 gigatonnes et la Chine, l'Inde et les États-Unis sont responsables de 85% de la hausse de ces émissions. De quoi rendre plus urgent que jamais la lecture de l'encyclique Laudato Si, cette grande encyclique écologique que nous parcourons cette année. Un texte puissant, appelant rien moins qu'à une révolution culturelle et à, je cite, convertir le modèle de développement global à accepter une certaine décroissance ou à en finir avec une emprise absolue de la finance. De quoi commenter ? Lecture de Laudato Si, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, avec cette grande lecture que nous proposons donc à nos auditeurs tout au long de cette année, lecture de cette encyclique publiée en juin 2015, et autour du plateau pour nous en parler aujourd'hui, Marie-Christine Monnoyer, vous êtes secrétaire générale des Semaines Sociales de Toulouse et titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut Catholique de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près du micro. Alexandre Ribeyron, vous êtes maître de conférence à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier et membre du laboratoire Évolution et Diversité Biologique. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, donc, on s'attaque au chapitre 5. Alors, je vais redonner les 5 grands chapitres pour que les gens, les auditeurs les aient en tête. Dans le premier chapitre, ce qui se passe dans notre maison. Partie constat de l'évangile de la création, une partie plus théologique. Ensuite, la racine humaine de la crise écologique, où le pape François décrit la crise anthropologique, on va dire, que traverse l'humanité. 4, l'écologie intégrale. Thème cher à l'Église, et en 5, donc quelques lignes d'orientation et d'action. Alors, vous n'avez pas la partie la plus facile, puisque ces lignes d'orientation et d'action, c'est comme un rappel, un condensé dans ce chapitre de quelques, on va dire, grandes lignes d'orientation, comme il l'indique, en tout cas pour bien agir, aux règles de bon agir politique, national ou international. J'aimerais juste commencer peut-être par un commentaire de ce chiffre. C'est vrai qu'en faisant ces émissions tout au long de l'année et en parcourant émission après émission ces chiffres qui disent la crise climatique actuelle, les nouvelles comme celles qui sont tombées hier, c'est quelque chose d'un peu décourageant, non, Marie-Christine Monnoyer ? Comment vous prenez ce genre de nouvelles que j'ai citées en introduction ?
Alors, peut-être que c'est décourageant, mais entre deux nouvelles décourageantes, il y a des nouvelles encourageantes. Et en particulier lorsque on s'approche ou lorsque l'on regarde des initiatives nationales ou plurinationales ou des initiatives individuelles, on s'aperçoit que dans un certain nombre de pays, le chiffre que vous avez cité est allé, lui, à la baisse et non pas à la hausse.
Bravo. Alors, vous voyez exactement comme quoi il faut toujours aller au bout de l'article. En l'occurrence, si je prends le même article que j'ai cité ce matin, qui, je crois, est tiré de site internet de France Inter, à l'inverse, les émissions de CO2 ont diminué au Royaume-Uni, en Allemagne et en France et au Japon. Preuve qu'il y a de la vertu, mais peut-être le bien ne fait-il pas de bruit. Alexandre Ribeyron, vous, votre réaction, quelle serait-elle ?
Un petit peu la même que celle de ma collègue. Oui, je pense qu'on regarde toujours un petit peu les trains qui arrivent en retard et pas tous les trains qui arrivent à l'heure, donc ça peut fausser un petit peu aussi notre perception des choses. Il est vrai qu'il y a certains pays, puisque c'est principalement dû à la Chine, l'Inde et puis aux États-Unis, qui sont pas pour le moment sur une dynamique de limitation, mais qui nous dit que dans quelques années, eux aussi n'engageront pas une politique drastique de limitation.
Marie-Christine Monnoyer.
Alors justement, c'est tout à fait intéressant de voir les choses comme ça, parce que quand on regarde ce qui vient de se passer avec l'initiative solaire entre l'Inde et la France, mais qui est le fruit d'une décision qui a été prise à la COP21, on s'aperçoit qu'il y a là une décision collective avec la recherche d'un fonds, d'un investissement extrêmement important pour permettre à tous les pays qui sont situés entre les deux tropiques d'avoir accès à l'énergie solaire d'une façon forte. On peut penser que, de facto, et de jure, il y a des actions qui sont entreprises justement par certains pays qui sont des grands pollueurs d'aujourd'hui.
Marc-Christine Monnoyer, vous aviez aussi une réflexion juste avant qu'on commence l'émission. Vous disiez que ce texte aussi, ça vaut le coup peut-être de le dire avant qu'on se lance dans la lecture et commentaire de ce cinquième chapitre, il avait peut-être vocation à être d'abord reçu dans une culture ou moins de tradition chrétienne. Est-ce que c'est une précision importante aussi pour peut-être expliquer en partie l'actualité ?
Alors, ce que nous savons tous, nous qui avons eu le plaisir de lire cette encyclique, c'est qu'elle a été très lue, en particulier dans notre pays, qui est de tradition chrétienne, même si le taux de christianisation est en baisse, et qu'elle a eu un impact important sur la façon de réfléchir. On peut penser que parce qu'il y a eu du buzz autour de cette encyclique en Europe, en particulier, il y a eu des effets, et il est peut-être plus difficile d'imaginer qu'il y a eu le même buzz dans un pays hindouiste ou dans un pays très très peu religieux.
Alors si on se lance donc dans la lecture de ce cinquième chapitre, le pape François, on va dire, attaque fort au début d'un sous-chapitre, le dialogue sur l'environnement dans la politique internationale. Il rappelle que la planète est comme une patrie, il parle d'un monde unique et appelle à un projet commun. Se dessine derrière cela donc une demande d'une politique internationale. Il cite même le pape François, le pape Benoît XVI sur ce sujet, qui plaidait pour une autorité politique mondiale dans l'encyclique Caritas in Veritate qui elle avait été publiée en 2009. C'est pas rien et ça avait fait beaucoup jaser à l'époque. Qu'est-ce que ça peut appeler comme commentaire, Marie-Christine Monnoyer?
C'est une autorité totalement mondiale. En fait, il n'y a que les papes qui ont une autorité totalement mondiale. Même l'ONU ne rassemble pas complètement tous les pays et nombre de décisions qui sont prises par l'ONU ne touchent ou ne sont appliquées que très, très légèrement. Donc en fait, ce qu'il dit et qui est fondamental, c'est que la pollution, elle n'a pas de frontières. Le problème climatique, il n'a pas de frontières. Donc de facto, c'est un problème mondial. Mais quand on a dit ça, on met tout de suite en évidence que les autorités mondiales, ça n'existe pas. Et nous ne les verrons pas, nous qui sommes déjà sur Terre. Hein. Peut-être que cela se produira dans quelques siècles, mais les problèmes sont tellement compliqués et les intérêts en jeu sont tellement compliqués qu'il n'y a pas d'autorité mondiale.
Alors pourtant, le pape François, justement, laisse entendre l'inverse, si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est justement parce que c'est compliqué qu'il faut, je cite, faire en sorte que les solutions proposées dans une perspective soient proposées dans une perspective globale et pas seulement pour défendre les intérêts des pays. L'interdépendance nous oblige à penser un monde unique et à un projet commun.
Oui, elle nous demande de penser un projet commun. Mais vous avez bien vu qu'entre les Chinois, les Indiens, les Européens, etc., eh bien, pour arriver à un semblant d'accord, il nous faut une énergie absolument fondamentale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Je ne dis pas que c'est que quelque part même c'est indispensable. Mais nous savons très bien que les intérêts des uns et des autres sont absolument, dans certains cas, très divergents. Ou que nous ne sommes pas à la même échelle de temps. Et ça, c'est fondamental. Nous ne sommes pas à la même échelle de temps. Et les Chinois, les Indiens, les Africains aussi ont des besoins de développement qui font qu'on ne peut pas leur dire « faites comme nous devrions faire, nous aussi ».
Alors on va y revenir dans un instant, je cite un autre passage. La même intelligence que l'on déploie pour un impressionnant développement technologique, c'est dans le paragraphe 164, ne parvient pas à trouver des formes efficaces de gestion internationale pour résoudre, les graves difficultés environnementales et sociales. Le pape François a-t-il vocation à être l'homme qui prêche dans le désert, Alexandre Ribeyron, sur ce consensus mondial qui devient indispensable ?
Non, je pense qu'il ne prêche pas dans le désert. On a vu quand même que la COP21 avait conduit à un certain nombre de résultats. Et je pense, et c'est peut-être optimiste de le dire, ou peut-être naïf, mais la concomitance avec la sortie de l'encyclique, l'encyclique est sortie six mois avant. Je pense qu'en tout cas, pour rejoindre ce que dit ma collègue, c'est vrai que ça se passait à Paris. Les Européens ont été véritablement locomotives et peut-être que cette encyclique a participé justement à cette dynamique. Après, par rapport au développement, Moi, je me dis toujours, est-ce que chaque société doit passer systématiquement par tous les stades, tout le monde à l'âge de pierre, et puis après tout le monde à l'âge du charbon. Aujourd'hui, il y a quelque chose que je trouve intéressant dans l'encyclique, c'est par rapport au transfert technologique. Je vais prendre un exemple qui me paraît assez simple, c'est celui du téléphone. On est passé de l'ancien téléphone. Quand on allait en Afrique, il y a quelques années, peu de gens avaient l'ancien téléphone parce qu'il n'y avait pas les infrastructures nécessaires. Aujourd'hui, vous allez en Afrique, dans une ville d'Afrique, vous avez autant de gens qui sont branchés avec leur téléphone que vous en trouvez à Toulouse. Donc, ils sont passés de, en gros, pas de téléphone à
la 4G directement.
À la 4G directement. Et je pense que pour les aspects énergétiques, etc., on parlait du solaire, mais en effet... Pourquoi est-ce que nous aussi, on ne participe pas, en tant qu'Européens, au développement de technologies dans ces pays? C'était Jean-Louis Bourleau, à une époque, qui voulait réaliser l'électrification de l'Afrique. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Plutôt que de dire, ben oui, nous on a fait avec du charbon, ben on sait que le charbon, c'est pas très bien, mais ben vous avez du charbon, continuez avec du charbon. Je pense qu'on peut faire des sauts. Et on peut accompagner ces pays en développement pour faire ces sauts technologiques.
Alors là, vous parlez donc de ce qu'on appelle la justice climatique. Oui. C'est un point qu'avait largement souligné François Hollande en ouverture justement de la COP21. Je cherche dans mes fiches de quoi le citer, mais je ne retrouve pas, ça viendra après. En tout cas, si on cite le pape François, il dit la chose suivante, voilà, il dit quand même que les pays pauvres, paragraphe 172, doivent avoir comme priorité l'éradication de la misère et le développement social de leurs habitants. Difficile de faire la leçon aux pays en voie de développement quand même, Marie-Christine Monnoyer.
Alors, effectivement, on ne peut pas faire la leçon aux pays en voie de développement. On peut simplement, et l'exemple de l'énergie est pour ça vraiment fondamental, on n'est pas obligé de passer par toutes les étapes technologiques que les Européens ont vécues ou les Nord-Américains, et on peut aider les habitants de ces pays à passer directement au solaire, à passer à toutes les formes d'utilisation du solaire. Il y a aujourd'hui des petites machines maintenant qui permettent, en fonctionnement uniquement au solaire, de moudre toutes les céréales qui sont indispensables aux pays en voie de développement, partout, mais qui sont très largement utilisées dans les pays en voie de développement. Et quand je regarde fonctionner ces petites machines qui transforment la vie quotidienne des habitants, qui transforment la façon de se nourrir des habitants, eh bien je me dis qu'il y a là une progression formidable pour ces pays et que nous pouvons appuyer avec les technologies que nous avons mises au point.
Alors, je retrouve François Hollande. Donc, c'était donc discours d'ouverture, discours inaugurant la COP21, où François Hollande disait la chose suivante. Les pays développés doivent assumer leurs responsabilités historiques. Les pays émergents accélérer leur transition énergétique et les pays en développement doivent être accompagnés dans leur adaptation aux impacts climatiques. Et c'est donc le thème de la justice climatique et a été normalement voté à l'occasion de cette COP21. Donc, un fonds de 100 milliards de dollars annuels qui serait un transfert, on va dire, des pays dits développés aux pays en voie de développement, le fameux G77, même si j'ai compris que ces échéances où les 100 milliards n'étaient pas toujours au rendez-vous. Alors il y a un dernier point que j'aimerais voir avant qu'on fasse une première pause, c'est cette expression que le pape François utilise de biens communs globaux. C'est le paragraphe 174. En définitive, il faut un accord sur les régimes de gestion pour toute la gamme de ce qu'on appelle les biens communs globaux. Le bien commun, ça nous parle, mais là c'est peut-être davantage ce qu'on appelle les communs. Ces biens qui, quelque part, appartiennent à tous. Est-ce que c'est une expression qui vous a fait tilter, Marie-Christine Monnoyer?
Alors, elle me fait tilter... Tout simplement parce que, comme nous le disions tous tout à l'heure, la pollution n'a pas de frontières. Et donc, la pollution des eaux, la pollution de l'air, eh bien, ça affecte la qualité des biens communs globaux. Donc, au fond, quand il évoque cela, il nous oblige à regarder des situations, j'ai envie de droit dans les yeux. Souvenez-vous de Tchernobyl et du nuage qui s'arrêtait à la frontière. Hier, cela faisait sourire. Aujourd'hui, on dirait que les politiques qui avaient employé ce terme-là se moquent du monde. Donc, cette réflexion sur la pollution de l'air et la pollution de l'eau, ce matin, j'entendais sur une radio concurrente le fait qu'on avait maintenant dans les fosses, même les plus grandes fosses des océans, des pollutions au plastique qui sont absolument catastrophiques. Et les chercheurs qui maintenant sont nombreux à travailler là-dessus se disaient, comment est-ce qu'on peut mettre au point un système qui nous aide à empêcher le développement de ce septième continent du plastique ? L'océan, c'est notre bien commun global. Et donc, cette...
Sixième continent, je crois. Non, on ne dit pas ça. Enfin, peu importe. Ça, c'est pas...
On dit septième. Bon, mais ce qui est fondamental, c'est qu'on a besoin à la fois du politique et du scientifique dans ce domaine. Parce que c'est ce bien commun global, la complexité de son nettoyage, de sa gestion économique, sont extrêmement complexes.
Oui, parce qu'en général, on imagine que c'est un continent de plastique, mais en fait, ce sont des milliards de particules qui sont diluées dans l'eau. Je crois qu'on en avait parlé déjà dans une précédente émission. Alexandre Ribeyron, sur ces biens communs globaux.
Oui, je pense que c'est important dans le sens qu'il y a aussi une prise de conscience nécessaire de leur existence. Parce que très souvent, pour beaucoup de nos contemporains, je pense qu'ils ont une... peut-être un petit peu critique ce que je veux dire, une vision un petit peu limitée des choses. Et puis, nous aussi, on a perdu le sens des communs, j'allais dire, nationaux, des biens communs nationaux. Donc, les biens communs globaux, oui, c'est certes, on le voit et on en parle quand il y a des catastrophes comme Tchernobyl et autres, mais je ne suis pas persuadé que si on allait dans la rue maintenant faire un micro-trottoir, les gens pensent tout de suite à l'air, à l'eau, à l'océan. Donc, on a à faire redécouvrir ces biens communs et cette encyclique peut nous y aider.
Voilà, je dis juste moi ce à quoi ça m'a fait penser, donc à une émission qu'on a fait précédemment. C'est un sujet dont on a parlé au moins une ou deux reprises, les fameux communs, réalité qui existe en droit romain, qui existait déjà en droit romain, qui n'est ni le droit privé ni le droit public, mais ce qu'on appelle les communs, c'est-à-dire des biens qui sont des ressources partagées, gérées et maintenues collectivement par une communauté. Ça a été mis à jour, ces communs qui existent depuis toujours dans l'histoire de l'humanité, par une certaine Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie. C'est un sujet passionnant. Par exemple, dans les Pyrénées, il y a des communs, c'est-à-dire des systèmes de gestion d'irrigation dans des vallées qui sont gérées, donc on va dire, enfin qui sont gérées communément.
Ça existait aussi beaucoup au Moyen-Âge.
Et ça existait beaucoup au Moyen-Âge. On fait une première pause et puis on vous retrouve pour cette lecture de l'encyclique Laudato Si du pape François avec sous-titre sur la sauvegarde de la maison commune.
Emmanuel Pella.
Lecture de Laudato Si, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, avec pour rappel autour du plateau pour ceux qui nous rejoindraient, Marie-Christine Monnoyer, secrétaire générale des Semaines Sociales de Toulouse, titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse. On peut dire que, enfin, rappeler que Jean Rodin est le fondateur du Secours catholique, et Alexandre Ribeyron, maître de conférence à l'Université Toulouse 3. Paul Sabatier, membre du laboratoire Évolution et Diversité Biologique. Aujourd'hui, donc, on parle, pour rappel, donc, du cinquième chapitre. On parcourt à nouveau cette encyclique, cinquième chapitre. S'appelle quelques lignes d'orientation et d'action. Marie-Christine Monnoyer, est-ce que vous pouvez donner l'information que vous citiez pendant cette courte pause musicale, information intéressante ?
Ce que je voulais rappeler, c'est qu'il y a désormais une véritable prise de conscience du fait que pour qu'un accord soit accepté sur le plan mondial, il faut qu'il ait des rythmes différents selon le niveau de développement des pays. Et un exemple qui est fort et que nous allons vivre maintenant au quotidien, puisque l'accord est applicable en France au 1er janvier 2019, concerne certains gaz à effet de serre qui n'étaient pas intégrés dans le protocole de Montréal tel qu'il avait été signé à l'époque. Il a été renouvelé, remodelé et il touche 18 gaz à effet de serre un petit peu complexes. Eh bien, on a fait un calendrier totalement différencié pour les pays développés et les pays en voie de développement. Et ce que j'ai aussi trouvé d'intéressant dans ce texte, c'est qu'il est prévu une révision périodique. Et ça va tout à fait dans le sens de l'encyclique, puisqu'au fond, on sait bien que si l'on veut qu'un texte soit efficace, il faut que l'on contrôle d'une façon régulière. Alors vous voyez, quand on dit appliqué au 1er janvier 2019 et avec une révision en 2022, c'est tout à fait à une échelle intéressante. On a la possibilité de voir les résultats et peut-être d'accentuer ou de moduler dans le futur. Donc ça, c'est véritablement quelque chose qui touche aux biens communs globaux.
Alors, c'est vrai qu'à la lecture de cette encyclique, on sent que le pape François, même si le ton est très incisif, hésite toujours entre l'encouragement de cette coopération internationale et en même temps en se désolant que ça ne va pas assez vite. Quand on lit la même chose, par exemple, à propos des comptes rendus de la COP24, je me suis replongé dans un article qui, évidemment, disait la même chose, laissant entendre que c'était déjà une prouesse d'arriver à s'entendre et à ne pas finir sur un échec total. Et en même temps, ce rappel du climatologue Jean Jouzel, qui expliquait donc au lendemain de la signature de l'accord de la COP24 sur Europe 1, que nous ne faisons qu'un tiers du chemin en termes de limitation de gaz à effet de serre et que ces COP24 étaient quand même globalement des échecs. Bref, on a l'impression de marcher un peu sur deux jambes. Non, Alexandre Béron,
Oui, mais je pense qu'on est dans une période de...
Face à l'urgence, on ne va jamais assez vite.
On est dans une période de transition. Il y a un tel bousculement par le changement climatique, mais qui n'est pas encore, qui est à la fois concret sur certains aspects et pas encore. On sait qu'il y a toujours des rigidités, des lenteurs, de l'inertie. Donc les choses avancent, certes, on vous dirait pas assez vite, mais elles avancent. C'est le principal. Ici, il faut avancer, il faut pas reculer.
Alors maintenant, on va se pencher, c'est la fin de ce cinquième chapitre, dans un sous-chapitre politique et économie en dialogue pour la plénitude humaine. Politique et économie en dialogue pour la plénitude humaine. Et alors, je citais ça en teasing de l'émission ce matin, et je disais en souriant, mais sans aucune moquerie, que c'est un passage qui parlerait aux Gilets jaunes et peut-être même aux Black Blocs. Je cite ce passage, paragraphe 189, quelque chose qu'on a déjà entendu dans cette encyclique, hein. Sauver les banques à tout prix en faisant payer le prix à la population sans la ferme décision de revoir et de réformer le système dans son ensemble réaffirme une emprise absolue des finances qui n'a pas d'avenir et qui pourra seulement générer de nouvelles crises après une longue, coûteuse et apparente guérison. Marie-Christine Monnoyer, est-ce que ces passages-là, ça donne pas raison à ceux qui n'en peuvent plus et qui vont dans les centres-villes, y compris à Toulouse, chaque week-end, casser les guichets des banques?
Eh bien, je vais pas vous dire oui. Je vais pas vous dire oui parce qu'en fait, le problème de la gestion bancaire sur le plan international touche tout le monde. Qu'il s'agisse des Black Blocs ou des Gilets jaunes ou des autres, il touche tout le monde parce qu'il conduit à un management des entreprises qui est un management la plupart du temps court-termiste et un management qui conduit à regarder comme un succès l'augmentation du cours boursier tout simplement parce qu'on a organisé un licenciement. Et à chaque fois qu'il y a un fort licenciement dans une entreprise, pratiquement vous voyez le cours boursier qui monte.
Donc vous ne dites pas oui, mais vous ne dites pas non plus.
Je ne dis pas non, je dis que c'est un problème qui touche tout le monde. Et donc que c'est un problème éminemment important et que les décisions qui ont été prises depuis la crise de 2008 sont visibles, certaines, mais complètement insuffisantes parce qu'elles n'ont pas complètement changé les choses. Et moi, je vais plus loin. La loi qui vient d'être votée, la fameuse loi Pacte, qui vient d'être votée avec l'introduction de potentiel de la raison d'être dans la définition des objectifs de l'entreprise.
C'est eh bien, modification du code civil.
Absolument.
Et prise en compte du bien commun. Enfin, mais si
absolument.
C'est pas formulé comme tel.
Mais c'est exactement ça. Et donc ça, eh bien, c'est une réponse. Qui va dans le sens de ce que dit le pape dans Laudato aussi, puisqu'au fond, c'est la revanche de la raison d'être sur la raison financière. Et ça, c'est absolument fondamental. Donc, ce texte que vous venez de citer, on montre que quelque part il est entendu, parce que tout le monde a trop souffert de la financiarisation de l'économie.
Alors je cite un autre passage. Une fois de plus, il faut éviter une conception magique du marché, paragraphe 190, qui fait penser que les problèmes se résoudront tout seuls par l'accroissement des bénéfices des entreprises ou des individus, et un peu plus loin dans le schéma du gain. Il n'y a pas de place pour penser au rythme de la nature, à ses périodes de dégradation et de régénération, ni à la complexité des écosystèmes qui peuvent être gravement altérés par l'intervention humaine. Alexandre Ribéon, vous n'êtes pas d'abord un économiste, mais quel serait votre regard quand même, et puis on imagine que vous avez préparé un peu l'émission, sur cet aspect de critique virulente du monde de la finance qu'on retrouve en d'autres circonstances dans la bouche du pape François.
Et puis pas que dans la bouche du pape François, dans aussi Benoît XVI, Jean-Paul II, c'est quelque chose de récurrent. Je crois que ça pose le problème aussi du rôle du politique par rapport à l'économie. Et c'est vrai que dans notre monde, qui est un monde qui est très libéral, le poids de l'économie, des instances économiques, prennent le pas sur le poids du politique. On a l'impression que le politique, parfois dans certains discours, sont là pour gérer l'économie. D'ailleurs, quand un président de la République, quel qu'il soit...
C'est la grande critique des Gilets jaunes, hein, soit dit en passant.
Chaque fois qu'on présente un voyage d'un président français à l'étranger, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui va faire des affaires.
Ou d'un président chinois en France.
Ou d'un président chinois en France. On parle que de contrats, que de milliards, etc. Donc on voit bien que ce qui est toujours mis en avant, c'est l'économie. Par rapport à l'Europe, moi je suis quelque part très critique par rapport à l'Europe, parce que quand on nous présente un certain nombre de bénéfices vis-à-vis de l'Europe, on ne voit que des bénéfices en termes de libre-échange, d'économie, etc. On a l'impression que le politique est devenu quelque part un petit peu serviteur de l'économie et pas l'inverse. Et on oublie bien entendu l'humain qui est au centre et du politique et de l'économie.
Paragraphe 189, la politique ne doit pas se soumettre à l'économie et celle-ci ne doit pas se soumettre au diktat ni au paradigme d'efficacité de la technocratie. Ça, c'était quelque chose qui était très développé dans le chapitre précédent. Je voudrais juste citer, c'est un article, une interview paru dans le journal Le Point, c'était en septembre 2018, d'une certaine Jézabel Coupet-Soubéran, professeure à l'université Panthéon Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui dit, comme d'autres, que, en effet, c'est ce que disait Marie-Christine Monnoyer, que ce qui a été modifié suite à la crise des subprimes est quand même très largement insuffisant. Elle laisse entendre, je recherche la citation exacte, mais qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise financière. Alors elle cite par exemple les accords de Bâle III, c'est-à-dire les banques doivent avoir un peu plus de fonds propres, c'est ça, mais c'est 3,5% de fonds propres.
Voilà, et donc on a bien...
Est-ce qu'il y a eu d'autres grandes réformes hormis ces règles de fonds propres,
si
règles
vous voulez, de Bâle III? C'est quand même extrêmement important. L'autre réforme...
3,5%, ça fait quand même, ça paraît dérisoire.
Ça paraît dérisoire, sauf que les montants sont tellement importants que, si vous voulez, quand il y a des crises, ce qu'il faut trouver, c'est de l'argent frais. Donc, 3,5% de sommes considérables, c'est quand même pas mal d'argent frais. L'autre point qui est important, c'est la question de la gestion séparée des banques dites des banques d'affaires et des banques dites de particuliers.
Alors, dites-en un mot, justement.
Cette séparation qui conduit l'ensemble du système bancaire à ne pas mélanger l'ensemble des fonds, qu'il s'agisse des particuliers ou qu'il s'agisse des affaires, et d'obliger à avoir une organisation de l'utilisation de ces fonds différente. C'est ça qui est fondamental.
C'est une loi donc de juillet 2013 qui a à nouveau séparé les activités d'affaires des banques des activités des particuliers.
Ce qui existait dans les années 60. et qui avait été réunifié ultérieurement.
Mais comment vous expliquez, par exemple, à Christine Monnoyer, moi je suis journaliste, alors je dis pas que je suis spécialiste des questions économiques, hein, mais j'avais jamais entendu parler de cette séparation des régulations des activités bancaires. Et à mon avis, on fera un sondage chez les Gilets jaunes, 95% ne le savent pas, non ?
Non, mais ça c'est sûr, mais si vous voulez...
Pourtant, c'est important quand même.
C'est important, mais étant donné que ça ne se voit pas dans... si vous voulez, quand vous allez à la banque et que vous déposez votre SMIC ou votre salaire un peu plus important, vous ne vous rendez pas compte de l'organisation de la gestion à l'intérieur de la banque. C'est pas véritablement votre problème. Et si on n'en parle pas sur un mode un petit peu humoristique, personne ne va évoquer ces points-là. Ça conduit à ce que...
Le gouvernement pourrait faire un travail de pédagogie sur des
mais c'est la même chose pour les impôts. Il n'y a que 50% des Français qui payent des impôts. Bon, mais si vous demandez dans la rue aux gens combien de gens payent des impôts, on va vous dire que tout le monde paye des impôts, enfin de l'impôt direct, hein, je ne parle pas de la TVA que tout le monde paye, mais même ça qui pourrait être très favorable par exemple aux Gilets jaunes on ne le sait pas tellement. Il faut un événement comme celui que nous vivons en ce moment en France pour qu'on se dise, de facto, en France, il n'y a que la moitié de la population qui paye l'impôt sur le revenu. Ça pose le problème du rôle des médias. Tout à l'heure, quand vous évoquiez le fait à la fois qu'on parle que des catastrophes ou que l'on parle de... Enfin, ou qu'on évoque... dans l'émission que nous sommes en train de vivre à l'instant T, eh bien, il nous faut parler justement de choses qui sont un peu moins connues, ce que vous évoquiez à l'instant, ce que j'évoquais sur l'accord de Montréal, qui montre que il y a des transformations, il y a des prises de conscience, à la fois au niveau politique, au niveau international, et que tout le monde doit en être conscient pour que quand il y a une interpellation qui est plus individuelle plus personnelle, on se dise que ça me concerne aussi.
Voilà, des médias qui donnent un petit peu d'espoir. Alors on va essayer de continuer. En tout cas, si on cite le pape François dans le paragraphe 193, il a cette expression, il parle de décroissance. Ça aussi, c'est comme l'autorité mondiale, ça en fait bondir certains. C'est pourquoi l'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant à disposition des ressources pour une saine croissance en d'autres parties. Bruno Cyr, ancien président de l'Université Toulousain Capitole, qui intervient dans une émission mensuel qui s'appelle Le Grand Débat, ça c'est la décroissance, ça le fait bondir. Comment vous réagissez l'un et l'autre, Alexandre Ribeyron? Décroissance, ouais. L'heure est-elle venue à une certaine décroissance?
Qu'est-ce qu'on attend par décroissance? Est-ce que c'est le retour à l'âge des cavernes? Je ne crois que c'est absolument pas le
c'est
le
pas
cas.
Comme ça que c'est présenté en tout cas.
Non, mais et puis c'est tout à fait normal. Là ça fait des années qu'on nous parle, enfin on nous a toujours parlé, moi j'ai un peu plus de 40 ans. On a toujours parlé de la croissance, c'est un petit peu la fée, hein, la magicienne. La décroissance, qu'est-ce que c'est? Moi, je dirais, c'est aussi peut-être retrouver des attitudes, vivre plus en harmonie avec les rythmes de la nature. Voilà comme dirait Pierre Rabhi, une sobriété heureuse. Est-ce qu'on a besoin d'avoir la voiture avec 36 caméras de recul? Est-ce qu'on a besoin du toujours plus? C'est ça.
Mais en même temps, comment dire, dans l'imaginaire collectif, je ne sais pas, l'économiste que vous êtes, Marc-Christine Bonny, nous corrigera, mais on se dit croissance égale emploi, et quand on est à 10% de chômage, on se dit qu'il faut des points de croissance. C'est l'équation basique que tout le monde a en tête.
Dans croissance, derrière, il y a aussi progrès. Il y a aussi changement. Et ça me pose beaucoup plus de problèmes. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ça bouge. Il faut qu'on passe de la 3G à la 4G, à la 5G. Après, une fois qu'on aura la 5G, on aura la 6G, etc. Et tout ça, on nous dit, ça participe à la fois à la croissance et au progrès. Et je pense ce qui nous manque, c'est une déconnexion entre progrès et croissance.
Alors, pour que surgissent de nouveaux modèles de progrès, nous devons convertir le modèle de développement global, paragraphe 194, et le pape François un peu plus loin, il s'agit simplement, dit-il, ça paraît simple pour lui, de redéfinir le progrès. Marie-Christine Monnoyer.
Alors, vous avez parlé croissance, vous avez parlé progrès, moi je veux parler de croissance verte. Sans croissance, c'est les choses sont toujours plus difficiles lorsqu'il s'agit de partager. Mais au fond, derrière le mot de croissance, il y a plusieurs concepts. Est-ce que la croissance verte, c'est-à-dire une croissance avec moins de pollution, c'est-à-dire une croissance plus partageuse, n'est-elle pas en fait ce dont nous avons besoin? On a beaucoup parlé des gilets jaunes.
C'est quoi la croissance verte, justement?
La croissance verte, c'est une croissance, c'est-à-dire une augmentation du PIB, si on prend un indicateur simple, qui ne se traduit pas par une augmentation des gaz à effet de serre. Et dans un certain nombre de pays, on arrive de fait à avoir, alors c'est essentiellement en Europe, les pays du nord de l'Europe, à avoir une décorrélation, une déconnexion entre l'augmentation de la richesse nationale et les effets négatifs, en particulier sur le plan énergétique. C'est absolument fondamental. Parce qu'au fond, ce qui nous pose problème, c'est que nous avons besoin de richesses pour que tout le monde ait un niveau de vie et une forme de vie qui soit peut-être sobre, mais aussi heureuse. Si vous voulez, aujourd'hui, si vous allez dans les rues un samedi de Toulouse ou d'ailleurs, et que vous parlez de besoins, que tout le monde a des besoins satisfaits et qu'on peut faire une décroissance, c'est très difficile. Il y a des tas de besoins non satisfaits dans nos pays, énormément. Alors évidemment, c'est encore plus vrai dans les pays en voie de développement. Donc au fond... moi, je suis comme Bruno Cyr, je ne suis pas du tout d'accord avec le principe de la décroissance, mais ce qui me semble fondamental, c'est de repenser la croissance autrement. Et avant, nous évoquions par exemple le fait qu'on jette beaucoup, qu'on gaspille beaucoup. Là, il y a des
gaspillage poches. Alimentaire, vous citiez des chiffres pendant l'émission. On parle d'un tiers de la nourriture en Europe, alors ça a peut-être baissé. Aujourd'hui, vous dites 20%, c'est ça?
C'est 20% en France.
20% en France.
20% en France.
Alors juste sur la croissance verte, excusez-moi, je cite le pape François. Dans ce cadre, le discours de la croissance durable devient souvent un moyen de distraction et de justification qui enferme les valeurs du discours écologique dans la logique des finances et de la technocratie. Et le pape enfonce le coup, paragraphe 194, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises se réduit d'ordre ordinaire à une série d'actions de marketing et d'images.
Je trouve que c'est extrêmement sévère. Je trouve que c'est extrêmement sévère et là, pour une fois, je trouve que c'est pas incitatif. Parce que aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre et en Europe, des efforts sur la transformation de l'organisation du management de l'entreprise autour d'une nouvelle réflexion aussi bien sur les entrants, les demi-produits, les matières premières, et sur les effluents, ce qui sort et qu'on ne peut pas utiliser, elle est réelle. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a des tas de gens qui font du greenwashing. C'est tout à fait vrai. Mais il y a aussi une formidable poussée vers quelque chose de différent. Bon, moi, j'enseigne la responsabilité sociale de l'entreprise. Des exemples dans ce domaine, j'en ai plein. Et donc, je peux pas dire que ce soit simplement du faire-valoir marketing. C'est pas vrai.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour continuer de parcourir ce cinquième chapitre de cette encyclique. Entre autres, c'est pareil, des admonestations fortes à l'égard du politique. On va retrouver ça donc avec vous dans quelques minutes. Rappel du thème de cette émission, donc loué sois-tu, Laudato si, sur la sauvegarde de la maison commune. Lecture et commentaire de l'encyclique du pape François. Oh.
présence dans le Comminges 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Lecture de Laudato Si, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, avec autour du plateau Marie-Christine Monnoyer, secrétaire générale des Semaines Sociales de Toulouse, titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, pleine d'espérance et de fraîcheur, ça fait du bien. Enfin, quelqu'un qui n'est pas gagné par la sinistrose. Et Alexandre Ribeyron, maître de conférence à l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier, membre du laboratoire Évolution et Diversité Biologique, et qui, évidemment, on pourrait faire le même compliment. On va se pencher donc sur toujours ce cinquième chapitre, intitulé « Quelques lignes d'orientation et d'action ». Alors, il y a une partie à l'adresse de nos politiques ou de la manière que l'on a peut-être de faire de la politique, pas seulement dans nos pays, hein, dans le monde entier. Le pape François donne quelques leçons, on va dire, de bien commun ou de bon agir politique. Il revient entre autres sur une réalité, le drame de l'immédiateté politique. Paragraphe 178, le drame de l'immédiateté politique soutenu aussi par des populations consumistes conduit à la nécessité de produire de la croissance à court terme. Un peu plus loin, la myopie de la logique du pouvoir ralentit l'intégration de l'agenda environnemental au vu large dans l'agenda public des gouvernements. Et un peu plus loin encore, il est très difficile pour le pouvoir politique d'assumer ce devoir dans un projet de nation. Voilà, Alexandre Ribeyron, comment vous réagissez à ça? Vous disiez que c'était une expression aussi dans l'évangile, la joie de l'évangile, hein, le temps est supérieur à l'espace. On peut dire qu'il y a aussi de ça.
Oui, dans ce cinquième chapitre, on retrouve beaucoup de choses du pape François, de ses expériences aussi en tant que cardinal, j'allais dire, de terrain en Argentine. Ce qui ressort aussi, bien entendu, il y a ces critiques sur l'immédiateté du politique qui est souvent arrivée soit au sondage, soit aux futures élections. Mais ce qui me semble important, c'est que dans ce chapitre, il y a un mot qui revient quasiment systématiquement, en tout cas au niveau de chaque sous-titre, c'est le terme de dialogue. Et je crois que le propre François fait une analyse de la culture contemporaine comme étant une culture où il y a en gros une absence de dialogue. Et aussi un manque de liens interpersonnels. Et quelque part, ce qu'il essaye de promouvoir, en particulier à travers ce chapitre, c'est, le mot est peut-être un petit peu fort, une civilisation, je dirais, du dialogue. C'est-à-dire d'une quête honnête de la vérité, hein, et on se dit les choses, et d'une culture de la rencontre qui va renforcer, j'allais dire, la fraternité.
Qui est une expression du pape François, pour
oui,
le coup.
Oui, tout à fait. Et qui va renforcer la fraternité et la solidarité. Alors même si, en effet, il est un petit peu critique envers certaines instances...
Marie-Christine Monnoyer sur cette phrase, il est très difficile pour le pouvoir politique d'assumer ce devoir donc de viser le temps long dans un projet de nation. Est-ce que là, pour le coup, on ne peut pas reconnaître que nos politiques n'ont quand même pas la tâche facile et aussi la part de responsabilité qui peut être la nôtre, hein, je recite le début de ce paragraphe 178, le drame de l'immédiateté politique soutenu aussi par des populations consuméristes.
Ben avec ça, on a tout dit. Au fond, on met en évidence combien c'est compliqué de réfléchir à moyen terme et aussi d'attendre les effets d'un texte, d'attendre les effets d'une nouvelle réflexion, d'une nouvelle recherche, etc. On veut que ce soit tout de suite. Nous sommes ainsi faits. Qu'aujourd'hui, le temps pour nous doit être immédiat. Mais ce que j'ai envie de reprendre sur ce point, c'est ce que vous avez dit juste avant. Vous avez évoqué la culture du dialogue. Et cette culture du dialogue, elle se passe plus facilement lorsqu'on est proche géographiquement les uns des autres que lorsqu'on est à l'échelle internationale.
Alors justement, le pape François insiste beaucoup sur le local.
Voilà. Alors, on insiste beaucoup sur le local et ce que nous vivons en France aujourd'hui a fait réapparaître les territoires, le local. Et de toute façon, en matière d'aménagement économique et maintenant de problématiques de pollution, le local, c'est le cœur du lieu où ça se passe. C'est que ce soit les agriculteurs dans un lieu, que ce soit une PME dans un autre, eh bien c'est à partir du moment où des décisions sont prises dans ces deux sphères, par exemple, que tout le monde est sensibilisé et comprend comment les choses s'enclenchent et comprend le temps long.
Alors je cite, paragraphe 179, ce simple exemple, donc le pape François citait un exemple, en l'occurrence les coopératives d'exploitation d'énergie renouvelable, montre que l'instance locale peut faire la différence alors que l'ordre mondial existant se révèle incapable de prendre ses responsabilités. En effet, on peut à ce niveau susciter une plus grande responsabilité, un fort sentiment communautaire, une capacité spéciale de protection et une créativité plus généreuse, un amour profond pour la terre. Il y a une expression, je crois, en économie qui dit « small is beautiful », non ?
Absolument.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce « small is beautiful » ?
Ben, il y a que la petite entreprise est au moins aussi intéressante que la grande entreprise. Et c'est pour faire la différence entre la multinationale et la petite entreprise. Mais contrairement à ce que dit le pape François à l'instant, je crois que ne disons pas que les grandes réunions internationales ne servent à rien. En fait, c'est celles qui font semer la graine de ce qui va se passer au niveau local. Parce que...
Vous voulez dire que c'est parce qu'on entend ça aux infos qu'après, oui, on a envie de se retrousser les manches chez soi ?
Quelque part, je trouve que c'est...
En partie, en tout cas.
En partie, c'est ça. Parce que ça fait germer la prise de conscience. Sinon, comment est-ce qu'on s'aperçoit qu'il y a du CO2 dans l'air ? C'est très difficile pour chacun d'entre nous. Il faut simplement avoir parfois franchi une frontière. Ceux qui ont fait, quel que soit le type de voyage, qui sont allés en Asie, et quand ils ont vu tous les gens qui se baladent avec un masque, ils se rendent compte qu'il y a un problème de CO2. Et quand ils reviennent en France, ils se disent, tiens, on respire. Mais le jour où on fait du footing sur les rives de la Garonne, on s'aperçoit qu'on respire pas aussi bien. Donc au fond, les deux se mélangent. Et la question du local, pour nous, là, elle est fondamentale.
Alors le pape François aussi, donc, dans cette leçon à l'adresse des politiques, utilise des termes forts. Hein. Il invite à la sincérité et à la vérité dans les discussions scientifiques et politiques. Ça n'est pas rien. Il invite à une continuité donc, de l'agir politique. Vous disiez donc à une certaine culture du dialogue, à des décisions qui sont fondées sur une confrontation, on va dire, raisonnable entre on va dire, risque et bénéfice. C'est pareil, puisque ce matin, vous êtes plein d'espoir. On peut imaginer, enfin, contrairement à l'idée que l'on peut se faire du politique et à l'image que nous renvoie l'actualité, au discrédit profond de l'agir politique, vous avez encore quelques espérances que nos politiques agissent en fonction de la vérité, de la sincérité, Alexandre Ribeyron ?
Ben, je crois qu'il y a toujours des politiques qui sont dans cette dimension de sincérité, de vérité, et puis il y en a d'autres qui sont uniquement dans une dimension d'opportunisme, voilà. Mais ça, c'est la condition humaine, que la personne fasse de la politique ou n'en fasse pas. Non, je crois que ce qui est important, justement, c'est ce va-et-vient entre le local et le global. Et cet enrichissement mutuel, il y a aussi quelque chose... on a vu un certain nombre de manifestations pour le climat qui étaient animées et conduites par des lycéens. C'est-à-dire les générations...
Maintenant, il y a les fameuses grèves pour le climat aussi.
Voilà, les grèves pour le climat, toutes ces choses-là. Donc, il y a une prise de conscience. Enfin, il y aurait aussi peut-être un regard de l'historien sur les 20 dernières années, comment les choses ont évolué. Enfin, je veux dire, quand on a parlé au début des premières crises concernant la biodiversité, voilà, personne s'y... disait, oui, la biodiversité, qu'est-ce que c'est ? On avait aucune idée. Aujourd'hui,
les lycéens ne descendaient pas dans la rue.
Les lycéens ne descendaient pas dans la rue. Après, il y a aussi des choses, on se rend compte. Si vous allez aujourd'hui vous promener dans les Pyrénées, vous regardez les ruisseaux pyrénéens, ils sont beaucoup plus propres, enfin les rivières, qu'au 19e siècle où vous aviez des industries dans chaque village, où on faisait de la tannerie, où on faisait un petit peu de...
Et des moutons.
Des moutons, où il y a des concentrations, où tout à l'égout était tout à la rivière. Donc il y a des choses qui évoluent en bien. Mais voilà, le bémol qu'on peut toujours souligner, c'est que parfois ça n'avance pas assez vite, c'est certain.
Allez, pour finir, j'aimerais que Marie-Christine, que vous commentiez, donc c'est le paragraphe 197, ce que je le citais en introduction, en fait le fond de cette encyclique, c'est d'appeler à une forme de révolution culturelle. Une stratégie de changement réel exige de repenser la totalité des processus, puisqu'il ne suffit pas d'inclure des considérations écologiques superficielles pendant qu'on ne remet pas en cause la logique sous-jacente à la culture actuelle. Et je pense que là, le pape François parle une fois plus du Dieu argent. Qu'est-ce que vous auriez comme commentaire sur cette phrase? Est-ce qu'on peut parler d'une révolution culturelle pour Laudato Si?
Ah oui, ça on peut parler d'une révolution culturelle. Fondamentalement, parce que, et là c'est toute sa force, c'est à la fois une prise de conscience, des orientations, un petit coup de bâton aussi bien sur le politique que M. Dupont, et donc cela nous conduit à nous dire, et moi, qu'est-ce que je peux faire au niveau où je suis? Or chacun d'entre nous, la plupart du temps, a plusieurs niveaux. Il est le consommateur, il est le salarié, il est le responsable de syndicat, il est le responsable d'entreprise. Et en fait, à tous ces niveaux-là, il y a des points. Et il me semble que ça, c'est véritablement, d'un certain point, une dynamisation ou un rappel pressant.
Voilà, donc c'est une lettre encyclique, mais ça aurait pu être aussi une exhortation apostolique, hein, en tout cas dans le ton. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Vivante Église pour continuer la lecture de ce texte fondamental. Merci aux éditions Salvator, donc, qui ont, comme d'autres, publié cette lettre encyclique, Laudato aussi sur la sauvegarde de la maison commune. Et je rappelle donc aussi ce colloque qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage paru aux éditions des presses universitaires de l'Institut catholique de Toulouse, Laudato aussi pour une écologie intégrale, sous la direction du frère Gilles Danroc et Emmanuel Canave, paru aux éditions aussi Artege Le Tielleu. Merci beaucoup et rendez-vous est donné le mois prochain. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.